Les mystères du Palais Royal, sixième partie. Chapitre 7. Le grand aumônier de France. Le grand aumônier tressaillit. Il recula d'un pas et pâlit légèrement. Les choses surnaturelles étonnent et émeuvent toujours, même quand on est venu les chercher. « Monseigneur ? » lui demanda la voisin avec un peu d'ironie. « Est-ce que je vous épouvante ?»«
Non, » répondit-il. « Et je vois que vous êtes bien celle qu'il me faut pour la grande entreprise que je veux tenter. »«
Dans ce cas, et puisque maintenant vous avez confiance, expliquez-moi ce qui vous amène. »«
Ne pouvez-vous le deviner ?»«
Je le pourrais, sans doute, mais il me faudrait appeler et questionner mes esprits familiers, et ce serait long. »« Si vous n'avez pas de temps à perdre, monseigneur, dites-moi vous-même ce que vous voulez que je sache. »
« Vous n'ignorez pas sans doute que je suis le neveu de Monsieur de Turenne. »«
Comment l'ignorerais-je ? La France tout entière le sait. »«
Comme toute la France aussi, vous savez que ce héros est mort sur le champ de bataille, d'une façon soudaine et à jamais regrettable. »«
Au grand chagrin du roi et à la grande joie des ennemis. » »«
En supposant que le maréchal, mon oncle, eût été le seul dépositaire d'un secret d'une immense importance, cette mort imprévue l'aurait empêché de confier ce secret à personne, puisque à partir du moment où il a été frappé jusqu'à celui où son dernier souffle s'est exhalé, il lui a été impossible de prononcer une seule parole. »
La voisin inclina la tête d'une façon affirmative.
« Eh bien, poursuivit le neveu de Turenne, ce secret existe. J'en ai, sinon la certitude, du moins la conviction. »
« Et ce secret ?»
Le voici. Le maréchal de Turenne n'a laissé à ses héritiers qu'une fortune qui n'était en rapport ni avec son grand nom, ni avec ses hautes dignités. Or, pour moi, il n'est pas douteux que cette fortune ostensible ne constituait que la moindre partie de son avoir, et qu'il devait posséder des sommes énormes et des amas de pierreries provenant de ses campagnes et des innombrables présents qu'on n'aura pas manqué de lui faire mystérieusement tenir.
Cependant, ce désintéressement si noble, dont M. de Turenne a donné tant de preuves, hasarda la voisin.
Je n'y crois pas. Il n'y a pas d'homme véritablement désintéressé sous le soleil. Et d'ailleurs, si le désintéressement existait, il serait une duperie.
Et vous ne voulez pas être dupe, monseigneur ?
Non, certes.
Enfin, monseigneur, en admettant l'existence de ces sommes énormes et de ces amas de pierreries, où voulez-vous en venir ?
Ne me comprenez-vous point ?
Pas encore.
La voisin mentait. Depuis longtemps déjà, elle avait deviné la honteuse cupidité de l'indigne neveu du héros. Depuis longtemps, elle avait compris que le grand aumônier acceptait comme toute naturelle une idée qui n'allait à rien moins qu'à déshonorer la mémoire si pure et si glorieuse du maréchal. Mais ainsi qu'elle le lui avait dit un instant auparavant, elle voulait entendre le prince de Bouillon s'expliquer lui-même. Ce dernier reprit.
« Oui, certes, dit-il, le trésor existe, et il doit être si bien caché que nul parmi les amis et les serviteurs de Turenne n'en a jamais soupçonné l'existence. Moi seul, plus habile et mieux inspiré que tous, j'ai deviné la vérité, et je me suis dit, puisque mon oncle a quitté le monde sans révéler son secret, c'est à lui-même, c'est au vainqueur du grand Condé que je demanderai où dorment ses richesses.
« Ah ah ! » fit la voisin. « Vous voulez cela, monseigneur ?»«
Oui. »«
Parler aux morts, c'est facile. »«
Mais les morts dorment d'un lourd sommeil, et ils ne peuvent ni vous entendre, ni vous répondre. »«
Sans doute. Aussi, vous voyez que je suis venu vous trouver. »«
Moi ? Et que puis-je faire ?»
On m'a dit que vous aviez le pouvoir d'interrompre le sommeil des morts, et de les arracher à leur linceul, et de les forcer à entendre votre voix, et de les contraindre à vous répondre.
En me disant cela, m'a-t-on menti ?
On vous a dit vrai, monseigneur.
Eh bien, évoquez Turenne, et forcez son ombre à vous écouter et à me parler.
Je ne ferai pas cela.
Vous ne le ferez pas ?
Non, monseigneur.
Pourquoi ?
Parce que le grand Turenne n'est pas un mort comme un autre? Parce qu'il a conquis le droit de dormir en repos dans son suaire ensanglanté? Parce que la gloire veille sur sa tombe et m'en défend l'approche? Parce qu'enfin, et pour tout vous dire, en l'évoquant, j'aurais peur.
Peur? Vous? Vous, la voisin? S'écria le grand aumônier.
Moi-même, monseigneur.
Femme, vous mentez.
Libre à vous d'en être convaincue, monseigneur.
Oui, vous mentez. Ou bien votre science prétendue n'est qu'imposture. Votre art magique n'est que jonglerie. Votre métier est de faire des dupes. Et aujourd'hui que vous êtes en face d'un homme que vous n'oseriez pas tromper et qui verrait clair dans votre diabolique mystification, vous reculez honteusement et vous cherchez à colorer votre impuissance par d'absurdes défaites.
Soit, monseigneur, croyez cela si bon vous semble.
Certes, je ne me permettrai pas de vous contredire, répliqua la voisin du ton le plus calme et avec les intonations les plus respectueuses. Le prince de Bouillon fit quelques pas pour se retirer, mais son idée fixe le dominait, le sollicitait avec une incroyable persistance. Il songea qu'il était le neveu du grand capitaine, et qu'un grand capitaine ne doit jamais regarder une bataille comme absolument perdue, tant qu'il existe quelques ressources. Au lieu de quitter la pièce dans laquelle il se trouvait, il revint donc sur ses pas.
« Voyons, dit-il. Femme, écoutez-moi.
Je vous écouterai, monseigneur, tant qu'il vous conviendra de m'adresser la parole. Le motif que vous m'avez donné tout à l'heure pour vous refuser à l'évocation que j'attendais de vous, est-il bien le véritable ?
Oui, monseigneur. Et si je connaissais quelque serment qui pût vous convaincre, je ferais ce serment sans hésiter.
Vous aimez l'or, n'est-ce pas ?
Oui, monseigneur. C'est même la seule chose que j'aime en ce monde.
Eh bien, s'il faut beaucoup d'or pour vous décider à ce que je vous demande, vous en aurez beaucoup.
Il en faudrait trop, monseigneur. Vous reculeriez vous-même devant le chiffre que je poserais.
Qui sait ?
Aucun sacrifice ne vous semblerait donc onéreux pour vous satisfaire ?
Aucun.
Et si je cédais à vos désirs, si j'évoquais cet illustre mort, si je le faisais apparaître sous vos yeux, et si cependant les résultats de cette évocation étaient nuls ?
Que voulez-vous dire ?
Je veux dire que les prétendus trésors amassés par votre oncle peuvent n'exister que dans votre imagination, monseigneur.
Oh, je ne crains pas cela.
Mais enfin, je suppose que cela arrive. Avec l'espoir des immenses richesses que vous convoitez, vos belles promesses s'évanouiraient sans doute.
Gardez-vous de le croire. Dans tous les cas, quoi qu'il pût arriver, ma reconnaissance vous serait acquise et vous seriez largement et royalement récompensé.
Précisez vos offres, monseigneur. Nous verrons ensuite si nous pouvons nous entendre.
N'aimez-vous pas mieux vous en rapporter à ma générosité ?
En aucune façon, monseigneur, puisque d'avance je vous ai prévenu que vraisemblablement vous reculerez devant mes exigences. D'ailleurs, je vous le répète, si énorme que puisse être la récompense, je préfère, et de beaucoup, m'abstenir.
Écoutez, je vous offre 30 000 livres si vous évoquez devant moi monsieur de Turenne. Quand bien même son fantôme, interrogé soit par vous ou par moi, refuserait de répondre, ou nous apprendrait que le trésor n'existe pas.
Allez toujours, monseigneur ?
Si, au contraire, le fantôme indique la cachette où gise l'or, les bijoux, la vaisselle plate et les pierreries entassées par le maréchal, vous aurez 100 000 livres.
Acceptez-vous ?
Non, monseigneur.
Pourquoi ?
Parce que le chiffre de vos offres est insuffisant.
Alors, fixez-vous même le vôtre.
Je veux 50 000 livres dans le premier cas.
J'en veux 200 000 dans le second.
Mais...
Oh, ne discutez pas, monseigneur. Acceptez ou refusez. Et si mon profond désir peut influencer votre détermination, je souhaite de toute mon âme que vous refusiez.
J'accepte.
Nous nous comprenons bien, n'est-ce pas ?
50 000 ou 200 000 livres.
Oui.
Je ne vous demande aucun engagement écrit, monseigneur.
Votre parole me suffit.
Et vous pouvez compter sur moi.
Chapitre 8. les tombeaux de Saint-Denis.
Et maintenant que nous voici d'accord, dit le cardinal, je tiens beaucoup, et vous devez le comprendre, à ce que l'évocation ait lieu le plus tôt possible.
Je ne perdrai ni une heure ni une minute, monseigneur.
Et je dois cependant vous prévenir qu'il me faut 15 jours.
Pourquoi 15 jours?
Ce temps est indispensable pour préparer la conjuration puissante qui réveillera la cendre des morts.
Soit, puisqu'il le faut.
Et j'ajouterai que le mystère le plus absolu devra entourer l'évocation.
Ce mystère est indispensable, et plus encore pour moi que pour vous.
Oui, certes, mais je ne sais si nous nous comprenons bien, monseigneur.
Et j'en doute.
Que voulez-vous dire?
Je veux dire que vous et moi, et 2 personnes à ma discrétion, le sage et Davot, prêtre révoqué, assisterons seuls à tout ce qui se passera dans le cours de la nuit que nous choisirons.
Vous aviez raison, dit le cardinal. Nous ne sommes pas d'accord.
Et tout en parlant ainsi, son éminence, aussi peureuse qu'elle était avide, se prenait à pâlir et à trembler à la pensée de son isolement.
Que prétendez-vous donc, monseigneur? Demanda la voisine.
Je prétends me faire accompagner par un brave gentilhomme, depuis longtemps l'un des serviteurs les plus dévoués de ma maison.
Quel est ce gentilhomme?
Un capitaine au régiment de Champagne, le propre neveu de monsieur de Gassion, maréchal de France.
Et vous répondez de sa discrétion?
Comme de la mienne.
Alors, monseigneur, qu'il en soit fait selon vos désirs, quoique la présence d'un étranger puisse nous être fatale à tous.
À quelle heure l'évocation aura-t-elle lieu?
À minuit.
Ici?
Oh non, monseigneur, pas ici.
Où donc?
Dans l'abbaye de Saint-Denis et sous les voûtes de l'église.
Le grand aumônier de France tressaillit et sa pâleur augmenta d'une façon visible.
Dans l'abbaye de Saint-Denis? Répéta-t-il d'une voix singulièrement émue.
Oui, monseigneur.
C'est impossible.
Il le faut cependant.
Ne pourriez-vous choisir un autre lieu?
Non, monseigneur.
Mais les portes de l'abbaye et celles de l'église sont fermées la nuit, vous devez le savoir.
Je le sais, monseigneur.
Le sacristain doit faire bonne garde.
Je n'en doute pas, monseigneur.
Eh bien,
tout cela importe peu.
Vous vous chargez d'ouvrir les portes?
Ce n'est pas moi qui les ouvrirai.
Qui donc?
Vous, monseigneur.
Moi? S'écria le cardinal.
Et comment?
Vous avez une clé qui ouvre toutes les portes.
Et quelle est cette clé?
La clé d'or.
Vous voulez dire sans doute qu'il faudra gagner le sacristain.
Oui, monseigneur.
Et ce sera facile, moyennant 200 pistoles données comptant et la promesse d'une place de 300 ou 400 livres par an à la grande aumônerie.
En effet, ce serait facile. Mais que deviendrait le mystère impénétrable dont vous voulez nous entourer? Et quel prétexte donner à cet homme?
Vous embarrassez-vous donc réellement de si peu de choses, monseigneur?
Mais il me semble...
Non seulement le prétexte sera plausible, mais il sera le plus édifiant du monde.
Quoi de plus simple et de plus touchant que cette action du grand aumônier de France qui a fait vœu de passer une nuit en prière sur le tombeau de monsieur de Turenne, son oncle?
Vous avez réponse à tout.
La réponse vous satisfait-elle, monseigneur?
Complètement.
Dans ce cas, nous voici d'accord sur tous les points.
Oui, et il ne nous reste plus qu'à fixer le jour. Ne pouvez-vous le faire à l'instant?
Je le puis, monseigneur.
Faites-le donc.
La voisine prit un calendrier et le consulta.
C'est aujourd'hui le 28 octobre, dit-elle ensuite. L'évocation aura lieu le 13 novembre à minuit.
D'ici là, est-il nécessaire que nous nous revoyons?
Non, monseigneur. Du moins, je ne le crois pas.
Si cependant j'avais quelque chose d'important à faire savoir ou à demander à votre éminence, j'aurais l'honneur de lui envoyer un émissaire discret et sûr.
Le vendredi 13 novembre, où devrons-nous nous retrouver? Demanda le cardinal.
Ici, monseigneur, si vous le voulez bien.
À quelle heure?
À 8 heures du soir. Serais-je déguisé ?
Vous pouvez ne point être revêtu de l'habit ecclésiastique, mais il est essentiel que le sacristain de Saint-Denis puisse reconnaître son éminence. Au nom de qui des promesses auront été faites ? Sans cela, nous pourrions échouer au port et trouver porte close.
Le grand aumônier de France et la voisin se séparèrent. La magicienne se mit en devoir de tout préparer, tandis que le cardinal avait d'avance des éblouissements à la seule pensée des immenses richesses dont il allait se trouver bientôt l'heureux possesseur. Les 15 jours s'écoulèrent et le vendredi 13 novembre arriva. La voisin était en mesure, et le sacristain, gagné par des pistoles sonnantes et de belles espérances, se tenait prêt à ouvrir les portes de l'abbaye à la première réquisition. À l'heure convenue, le cardinal et le capitaine de Champagne arrivèrent chez la voisin. Le sage et Davot, les deux prêtres interdits dont j'ai prononcé le nom, étaient déjà là. À 9 heures, on se mit en route, dans 2 voitures extrêmement simples, afin de ne point attirer l'attention. Le cardinal et le gentilhomme occupaient la première de ces voitures. La voisin, les 2 prêtres et le nègre, porteurs de l'attirail magique, se trouvaient dans la seconde. À 10h30, on atteignait les premières maisons de Saint-Denis. Là, tout le monde descendait de voiture et on se dirigeait un à un et à pied du côté de l'abbaye afin d'éviter le bruit compromettant des carrosses sur le pavé des rues. À 11h, les complices de tous rangs se rejoignaient auprès des portes de l'antique abbaye. Le sacristain était à son poste. Il ouvrit une poterne qui communiquait avec le parvis. Il introduisit dans l'église la troupe sacrilège. Il montra au cardinal qu'il avait laissé ouverte la porte qui communiquait au caveau mortuaire, puis il se retira afin de laisser le digne et saint prélat accomplir son vœu en liberté. Tout était silencieux et morne sous ces sombres voûtes pleines de tristesse et pleines de ténèbres. La lanterne sourde que tenait le sage enveloppait à peine les mystérieux personnages dans un cercle étroit de lumière douteuse. Par instant, un rayon égaré mettait une confuse étincelle sur un angle d'autel ou sur quelques moulures dorées, perdues dans le lointain, et faisait ainsi ressortir la sinistre immensité du vaisseau de l'église qu'on allait profaner. Des frissons rapides et continus passaient dans les membres du cardinal, et l'on entendait ses dents se heurter. Cependant, la cupidité était plus forte que la terreur. Il aurait voulu fuir, il restait. « Vous tremblez, monseigneur ?» lui dit la voisin.
« C'est de froid, » répondit-il. Puis, au bout d'un instant, il demanda « Quand commencera-t-on »
« Patience, » répliqua la voisin. « Patience, monseigneur, l'heure n'est pas encore venue. »
Pendant tout le temps du voyage de Paris à Saint-Denis, le ciel était sombre et couvert. Aucune étoile ne se montrait parmi les vapeurs épaisses qui rendaient plus opaques les ténèbres de la nuit et que nul souffle d'air ne venait écarter. Tout à coup, un bruit lugubre et pareil à celui d'un long gémissement courut sous les voûtes sonores de l'antique église, se multipliant et se divisant à l'infini, en heurtant les piliers et en se perdant dans les chapelles. Presque aussitôt, ce bruit augmenta et changea de nature. Les gémissements continuaient toutefois. Mais l'on eût dit que d'immenses oiseaux de nuit battaient de leurs grandes ailes tous les vitraux de l'église. Le cardinal ne parvint qu'à grand-peine à retenir un cri d'épouvante.
« Ce n'est rien, monseigneur, » lui dit la voisin tout bas. « C'est un ouragan qui commence au dehors. »
En même temps, et comme pour confirmer ses paroles, une clarté fulgurante, accompagnée d'un formidable coup de tonnerre, envahit la nef et l'illumina. Puis, tout rentra dans l'obscurité, et l'on n'entendit plus que les gémissements du vent et les coups d'ailes de la tempête.
« La foudre au mois de novembre ?» se dit le cardinal. « C'est étrange !»
Chapitre 9. L'évocation.
« Venez, monseigneur !» dit la voisin en se dirigeant vers la porte entrouverte qui conduisait au caveau mortuaire. Le grand aumônier ne bougea pas. Une indicible terreur clouait ses pieds au sol et ses jambes paralysées refusaient presque de le soutenir. La voisin s'aperçut de cet état de prostration absolue.
« Monseigneur, » dit-elle au prélat, « si vous voulez retourner en arrière, Il en est temps encore.
Il ne sera pas dit, balbutia le cardinal.
Il ne sera pas dit que je serais venu jusqu'ici pour reculer. Allons.
Il fit un suprême effort et, s'appuyant sur le bras du capitaine au régiment de Champagne, il suivit la voisine d'un pas chancelant. La magicienne s'enfonça résolument dans les profondeurs de l'escalier tournant qui descend vers les entrailles de la terre. Et bientôt tous les personnages qui devaient assister à la scène terrible de l'évocation se trouvèrent réunis sous les voûtes surbaissées du caveau qui renfermait le tombeau de Turenne. Au fond du caveau, en face du monument funéraire, se trouvait un autel de pierre. À certaines époques de l'année, des messes étaient dites sur cet autel pour le repos de l'âme de Monsieur de Turenne. Quelques chaises en bois attendaient les fidèles qui voulaient assister à ces messes. La voisine fit signe au nègre qui alla chercher une de ces chaises et l'apporta au grand aumônier. Son éminence se laissa tomber sur ce siège grossier. Et il était temps, car son lâche cœur cessait de battre et une défaillance devenait imminente. Alors commencèrent les apprêts de l'évocation. Le bagage magique dont le nègre était chargé consistait en deux tréteaux, quelques planchettes minces, s'ajustant les unes dans les autres au moyen de rainures, un grand drap noir, semé de larmes d'argent et de figures cabalistiques, plusieurs cierges de bougies noires, deux surplis, deux chasubles et deux étoles, noires en dehors, avec des larmes d'argent et doublées de rouge. Un rituel à tranches rouges, relié avec la peau d'un pendu, un calice, un Christ d'argent sur une croix d'ébène, une petite boîte renfermant des hosties non consacrées, et enfin une clochette d'argent et une baguette noire. Le sage et Davos placèrent les tréteaux, et sur ces tréteaux ils installèrent les planchettes dont je viens de parler, qu'ils recouvrirent du drap noir, improvisant ainsi une manière d'autel. Ils allumèrent 5 cierges de bougies noires. Ils disposèrent sur l'autel le Christ et le calice renversés. Ils placèrent le rituel à gauche au lieu de le placer à droite. Ensuite, ils se revêtirent des vêtements sacerdotaux, mais en ayant soin de mettre les étoles et les chasubles à l'envers, de façon qu'on n'en vit que la doublure. Le sage allait dire la messe à rebours, en remplaçant partout le nom de Dieu par celui de Satan, et Davos allait servir cette messe sacrilège. Quand tout fut disposé, la voisine prit la baguette noire, et Davos, s'agenouillant à côté de le sage, qui restait debout le visage tourné vers l'autel, saisit la clochette d'argent. Le nègre s'était retiré derrière le grand aumônier et son compagnon. La voisine s'approcha du prélat. « Monseigneur, lui dit-elle, le moment est venu. »« Je suis prêt, murmura le cardinal d'une voix éteinte. « Monseigneur, reprit-elle, regardez ce que je vais faire et écoutez ce que je vais dire. » « Je regarde et j'écoute. » La voisine traça sur les dalles du caveau, avec sa baguette noire, un cercle dans lequel elle emprisonna les 3 hommes. Puis elle continua. « À partir du moment où vous allez entendre la clochette retentir pour la première fois, jusqu'à celui où je vous dirai que le danger est passé, celui de vous qui mettrait le pied hors de ce cercle magique serait frappé de mort soudaine, et nulle puissance humaine ne pourrait en sauver. » « Vous souviendrez-vous de cela, monseigneur ?»«
Je m'en souviendrai. »«
Et si l'épouvante était plus forte que votre volonté et que votre mémoire ?»«
Femme, répliqua le grand aumônier en s'efforçant de donner une apparence de courage et de fermeté à ses traits décomposés, est-ce que vous croyez que j'ai peur ?»«
Non, monseigneur, mais la chair est faible. Je serai fort. »«
Je le souhaite pour vous et pour nous tous, monseigneur. »
À quel moment l'apparition aura-t-elle lieu?
Au moment où, pour la 3e fois, le prêtre officiant aura répété « Le mort vient ».
Devrais-je interroger l'ombre de mon parent?
Gardez-vous-en bien.
Votre parent lit ce qui se passe dans le plus profond de votre âme, et c'est sans être questionné par vous qu'il vous dira ce que vous voulez savoir.
Ces explications données, ces recommandations faites, la voisine entra elle-même dans le cercle magique et sur son signal, Davos, toujours agenouillé, agita la clochette, tandis que le sage commençait la messe par le dernier évangile. On entendait dans le caveau mortuaire
que le bruit sourd des respirations entrecoupées et haletantes, le bruissement affaibli de la tempête qui grondait autour de l'abbaye, et le murmure monotone des demandes et des réponses, échangées à demi-voix par le prêtre et par son servant. Mais voici qu'arriva le moment solennel de la consécration. Le sage, tenant entre ses deux mains une hostie, prononça les paroles puissantes, qui, selon les croyances du culte catholique, font d'un peu de pain le corps même du Dieu vivant. C'est au nom de Satan que s'accomplit l'épouvantable mystère, et la flamme vacillante des bougies de cire noire s'inclina comme sous le souffle d'une bouche invisible. En ce moment, une voix d'airain, une voix lointaine, et cependant distincte, descendit jusqu'au caveau. C'était le beffroi de l'abbaye qui sonnait le premier coup de minuit. « Le mort vient !» dit le sage d'une voix sourde et traînante. « Le mort vient !» murmura Darvaux après lui. Le beffroi sonnait toujours. « Le mort vient !» répéta le sage pour la troisième fois. À peine avait-il prononcé cette phrase lugubre, à peine le dernier des 12 coups de minuit venait-il de sonner, que les airs furent déchirés par un tel coup de foudre que la vieille église et le monastère en tremblèrent sur leurs fondements ébranlés. La voûte du souterrain se souleva comme un rideau qu'on écarte. Les dalles s'écartèrent et le regard pénétra jusqu'aux profondeurs où Monsieur de Turenne dormait dans son cercueil. Aux lueurs pâles d'une étrange clarté, on vit s'entr'ouvrir le cercueil, et le héros, enveloppé dans son suaire, se leva tout debout. Le cardinal n'était plus assis. Vaincu par les angoisses de la peur, il venait de se jeter à genoux et il priait de son mieux. Derrière lui retentit un cri aigu, suivi d'un bruit sourd. Il entendit à peine, ne leva point la tête et ne se détourna pas. Cependant, l'ombre du héros avait écarté les plis du suaire qui voilaient son visage, et il montait à travers l'espace jusqu'au lieu où le criminel descendant de sa race l'attendait tremblant et anéanti en présence de ce roi des épouvantements. Arrivé au niveau du sol disparu, le terrible fantôme s'arrêta, et lançant sur le cardinal prosterné et à demi-mort un regard de colère et de mépris, il s'écria d'une voix qui n'avait rien d'humain et qui semblait venir de l'autre bout du monde. « Ainsi donc, c'est toi, c'est bien toi, misérable héritier d'une race que tant de héros ont anobli et qui désormais va déchoir et s'avélir. C'est toi, prêtre sacrilège et parent dénaturé, qui viens pour un peu d'or souiller de ta profanation le temple de ton Dieu et réveiller la cendre endormie de celui qui fut Turenne. Eh bien oui, j'ai laissé un trésor mille fois plus précieux que toutes les richesses de la terre. J'ai laissé mon honneur sans tache. J'ai laissé ma gloire sans souillure. Je te déshérite de ce trésor, et je veux qu'avant un siècle, ma race, déshonorée par toi, soit éteinte. » Le fantôme du héros parla ainsi. Ensuite, il ramena sur son pâle visage les plis du linceul qu'il avait écarté, puis il redescendit comme il était monté. La voûte se referma, les dalles se rapprochèrent, Turenne avait disparu. Un nouveau coup de tonnerre ébranla pour la seconde fois l'abbaye. Ensuite, tout rentra dans le silence et la tempête se calma comme par enchantement. « Monseigneur, dit la voisin au cardinal, le danger est passé maintenant, relevez-vous. » Mais le cardinal ne se releva pas, il était évanoui. À quelques pas en arrière, un corps inanimé gisait sur les dalles. Ce corps était celui du capitaine au régiment de Champagne. Brave comme un lion en face des balles de l'ennemi, le pauvre capitaine avait perdu la tête en présence des affreux mystères dont on le rendait témoin. Affolé par une de ces terreurs qu'on ne domine point, il avait voulu fuir. Il avait oublié les avertissements de la voisin. Il était sorti du cercle magique. La mort l'attendait au dehors. Quant au grand aumônier de France, il revint peu à peu à lui-même. Il regagna Paris, il fut malade pendant plus d'un mois, et, une fois convalescent, il paya à la voisin les 50 000 livres convenues, en lui faisant jurer le secret. « Votre Altesse royale peut voir, ajouta Raoul de la Tremblay en s'adressant au régent, que le secret juré n'a pas été bien gardé.
« Et je vois aussi, chevalier, » répondit Philippe, « que vous aviez raison quand vous affirmiez tout à l'heure qu'il est parfois dangereux d'évoquer les ombres des morts. Mais je crois qu'en voilà assez sur ce sujet, et peut-être même un peu de trop. Votre Altesse royale me permet-elle de lui demander pourquoi ?»«
Sans doute. Regardez toutes ces dames. »
Le regard de Raoul fit rapidement le tour de la table.
« Eh bien, » reprit le duc d'Orléans, « comment les trouvez-vous ?
Mais adorables comme toujours, et plutôt des divinités que de simples mortels. »
« Et pardieu, je le sais aussi bien que vous, mais ces divinités sont livides d'effroi, et l'on dirait que chacune d'elles s'attend à voir quelques spectres historiques crever les parquets et les tapis de cette salle pour venir s'asseoir à ses côtés. »